Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard, Bertie Bourdon et Nora Litoussi. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Jean-Guilain Meige. Agriculteurs français, allemands, belges, espagnols, c'est le temps des révoltes pour les agriculteurs européens. Culture Monde consacre 4 épisodes à cette colère, à ces colères, car elles ne concernent pas les mêmes griefs selon les pays ou selon les types d'exploitation. Nous parlerons demain des agriculteurs d'Europe centrale et leur désillusion face à la PAC et à la guerre en Ukraine. Mercredi, du système espagnol en surchauffe. Jeudi, du blues des fermiers anglais depuis le Brexit. Aujourd'hui, que ce soit en France, Allemagne ou aux Pays-Bas, haro sur le pacte vert européen.
C'est un SOS et qu'ils doivent prendre des mesures d'urgence en faveur des agriculteurs.
On savait que le gouvernement voulait supprimer des subventions.
Depuis des années, nos politiques nous accablent avec toujours plus de restrictions. Il faut produire plus et gagner moins. Les annonces qui sont tombées ces dernières semaines, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
On peut pas dire, faites plus vert, et puis on va aller chercher du sucre ukrainien qui pousse à partir de betteraves OGM traitées au Roundup et enrobées de néo, ce qu'on n'a pas le droit ou plus le droit de faire de chez nous depuis bien longtemps. Voilà, à un moment donné, on demande de la cohérence et de la visibilité.
Nous avons écouté les principales plaintes, inquiétudes et préoccupations des agriculteurs. Il est très important que nous trouvions des solutions communes. Nous partageons les mêmes objectifs, par exemple la protection de la nature. Et les meilleurs ambassadeurs de la nature sont les agriculteurs eux-mêmes.
Les agriculteurs, meilleurs ambassadeurs de la nature, veut croire Ursula von der Leyen, car ils sont aussi les premiers à en vivre. Un épisode de canicule ou un méchant coup de gel, et c'est parfois une année de travail foutue en l'air, alors on appelle les copains, on demande des nouvelles. Ceux qui ont été épargnés cette fois-ci imaginent que ce sera bientôt leur tour, et même si la tradition orale des famines d'autrefois s'est depuis longtemps perdue, cette angoisse immémoriale perdure dans l'inconscient paysan. Préserver cette terre qui nous fait vivre tout en produisant beaucoup au nom de la sécurité alimentaire. Voilà le paradoxe dans lequel est prise l'agriculture en Europe. Le pacte vert, conçu pour répondre aux objectifs internationaux de baisse des émissions de gaz à effet de serre, vise en particulier le secteur agricole qui représente 12% de ses émissions aujourd'hui. Augmentation des zones protégées, promotion de l'agriculture biologique, diminution de la consommation de viande, la stratégie Farm to Fork, de la ferme à l'assiette, promet une agriculture plus durable, mais la plupart des professionnels la considèrent comme décroissante et d'autant moins légitime qu'elle est imposée par Bruxelles. Alors quels sont précisément les griefs des agriculteurs contre le pacte vert? A-t-il déjà en 4 ans contribué à modifier leurs pratiques et leur quotidien? Pourquoi la transition écologique est-elle plus difficile aujourd'hui dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs comme l'automobile par exemple, où des points d'accord ont été trouvés? Nous en parlons aujourd'hui avec 2 invités. Bonjour Thierry Pouche.
Bonjour Julie Gacon.
Vous êtes économiste, chef du service études et prospectives de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à Paris. Vous êtes aussi chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Et vous êtes ici en studio avec Pierre-Marie Aubert. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes ingénieur agronome, directeur du programme agriculture à l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI. Alors il se trouve qu'on commence cette semaine de Culture Monde dans un contexte un peu plus apaisé en France. En tout cas, le mouvement des agriculteurs français est aujourd'hui en pause. La plupart sont rentrés chez eux samedi après de longues journées de blocage sur les routes. Non pas à entendre ce qu'ils disent parce que les mesures annoncées par le gouvernement les satisfont, mais parce qu'il y a une exploitation à faire tourner. Thierry Pouche, si on devait faire une cartographie rapide aujourd'hui du mouvement de colère à l'échelle de l'Europe, cette fois, où sont les tracteurs, où sont les sifflets, où sont les manifestants les plus visibles à l'heure qu'il est?
Si on fait un tour d'horizon de l'Union européenne, il y a l'Allemagne qui continue le mouvement de colère, puisqu'il y a des décisions ou des non-décisions qui n'ont pas été prises par le gouvernement fédéral. Les agriculteurs grecs ont rejoint aussi le mouvement assez récemment. L'Espagne, bien entendu, les agriculteurs italiens, les agriculteurs belges, sans oublier ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, en particulier en Pologne, en Hongrie, en Roumanie. puisque moi je situe l'épicentre du mouvement déjà dans ces pays-là, et l'année dernière. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait ce transit de grains ukrainiens pour aider le pays en guerre à contourner la voie maritime et à passer par des voies ferroviaires ou fluviales, eh bien on s'est aperçu, en tout cas les agriculteurs de ces pays-là ont eu une crainte, c'est que le grain ukrainien fasse pression à la baisse sur le prix et puisse compromettre à terme leurs revenus. Donc on a là une cartographie de l'agriculture européenne qui est un peu en mouvement, même si évidemment en France ça s'est atténué, il y a des fermes comme vous l'avez dit à faire tourner, mais en même temps les décisions qui ont été prises ont reçu un écho relativement favorable quand même.
Décisions prises annoncées par le gouvernement de Gabriel Attal, certaines des mesures sont entrées hier officiellement au journal officiel. Est-ce qu'elles sont de nature à se télescoper avec les lois et les normes européennes? Est-ce qu'on est dans vraiment une stratégie pour l'instant de court terme pour calmer les choses ou est-ce qu'à terme, qu'est-ce qu'on peut dire de cette stratégie particulièrement française, Pierre-Marie Aubert? Est-ce qu'il y a d'autres États européens aujourd'hui qui sont dans cette même démarche de trouver des solutions de court terme?
Alors, les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement et le Premier ministre sont effectivement plutôt des mesures de niveau national. Elles se déclarent pas en tout cas frontalement anti-pacte vert, même si on sait que il y a eu des discussions sur comment freiner ce fameux pacte vert. On y reviendra sûrement tout à l'heure. Mais il y a des choses qui concernent, par exemple, l'indépendance du pacte vert, les retenues sur l'eau, ce qu'on appelle le ratio prairie, c'est le fait de maintenir des prairies dans les territoires. Il y a eu une annonce de mettre en pause temporairement la refonte de ce qu'on appelle le plan éco-phyto, c'est-à-dire le plan qui vise à réduire de 50% l'usage des produits phytopharmaceutiques à l'horizon 2030. Il y a eu aussi des mesures de soutien exceptionnel annoncé à l'élevage, mais dont il a été annoncé qu'elle serait quelque part reconduite d'année en année pour maintenir en fait une capacité de production pour l'élevage français de 250 millions d'euros. Donc c'est plutôt des mesures françaises. Ce que peut-être n'a pas été assez dit par les pouvoirs publics, c'est à quel point ce qui est dénoncé par une partie des représentants du monde agricole, à savoir le fait que c'est la faute du Green Deal si on en est dans cette situation-là.
La faute du Green Deal, pour vous, c'est le dénominateur commun de ces mouvements européens?
Alors, je ne suis pas sûr que ce soit un dénominateur commun. C'est un dénominateur commun de la colère. Est-ce que c'est vraiment le déterminant de la situation dans laquelle ils sont? La réponse est non. Est-ce que c'est un déterminant commun de leur colère? Peut-être que oui. En tout cas, c'est vrai que du côté syndical, ça a été brandi comme tel. Si on en est là, c'est parce que la Commission a été trop agressive avec ce pacte vert et nous a obligés à faire des choses. Et c'est, on va le voir, beaucoup plus nuancé en réalité.
C'est ce que dit par exemple cet agriculteur du Vexin rencontré par Brut le 30 janvier.
Sur ce point de blocage, donc sur la 15, on est au moins 50 tracteurs, donc ce qui est quand même relativement bien, avec tous partis du Vexin français. Aujourd'hui, on est tous regroupés pour les mêmes problématiques. Une exploitation qui ne fait même pas un hectare et une exploitation qui fait 1000 hectares n'est pas impactée par la même chose, mais tous les modèles agricoles sont touchés par ce qui se passe à l'heure actuelle. Je pense que des arboriculteurs, comme des céréaliers, comme des maraîchers, comme des éleveurs, tout le monde a un impact. Et je pense qu'on peut également le dire, quand on voit que dans les pays étrangers, ça bouge également, c'est parce que l'agriculture européenne a des choses à réviser.
L'agriculture européenne a des choses à réviser. Thierry Pouche, c'est bien elle, l'Europe, qui est désignée responsable des difficultés des agriculteurs. Est-ce que vous diriez, comme Pierre-Marie Aubert, que c'est le dénominateur commun, non pas des problèmes des agriculteurs nécessairement, mais au moins de leur colère?
Ah, il y a eu un facteur déclencheur, oui, ça, le pacte vert, depuis qu'il a été énoncé, même pour avoir été au contact d'un certain nombre d'agriculteurs, il y avait une réception qui était à la fois interrogative ou critique. Donc il y a ce facteur-là, il est déclencheur. Par ailleurs, quand même, ce mouvement de colère des agriculteurs prend ses racines dans une histoire un peu plus longue quand même, hein. Et d'une certaine manière, l'agriculteur moyen historiquement s'en est toujours pris à l'Union européenne en tout cas depuis la réforme de 1992, qui est celle qui enclenche un processus de réforme tous les 6 ans et qui s'inscrit en quelque sorte en rupture avec tout ce qui avait été fait depuis le début des années 60. Baisse des prix d'intervention, introduction de certaines formes de conditionnalité des aides, etc. Donc je pense que ça prend racine sur un temps beaucoup plus long. Et puis il faut pas oublier quand même que ces agricultures de l'Union européenne, et la France n'est pas tout à fait un cas isolé hein, de ce point de vue-là, c'est quand même l'érosion des effectifs d'agriculteurs qui pose un certain nombre de problèmes. C'est des demandes qui leur sont adressées qui pose un questionnement sur l'identité professionnelle maintenant de ces agriculteurs. Il y a une transition ou plusieurs transitions à effectuer qui nécessitent des investissements massifs. Or, le patrimoine des agriculteurs n'est pas forcément suffisant pour investir. Donc, il y a une ouverture probablement du capital qui va se faire de beaucoup plus large au capital extérieur. Donc, tous ces éléments-là couvaient en quelque sorte. Il y a eu comme une sorte de sédimentation de tous ces facteurs déclencheurs qui ont abouti à la situation d'aujourd'hui.
De très nombreux facteurs déclencheurs. On va s'occuper aujourd'hui de décortiquer celui qui concerne vraiment les obligations environnementales de plus en plus imposées aux agriculteurs. Ce pacte vert européen présenté par la Commission européenne en 2019, mis en œuvre petit à petit depuis, Pierre-Marie Aubert, est-ce qu'il a déjà des effets réels sur le quotidien des agriculteurs? Pourquoi est-ce que ce serait, 4 ans plus tard, déjà un déclencheur de ces mouvements de colère?
Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que la déclinaison agricole du pacte vert, donc la stratégie de la fourche à la fourchette, elle a heurté avant tout par l'esprit. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui, dès le départ, dit l'agriculture européenne doit réduire de manière importante sa dépendance aux fertilisants, aux pesticides, aux antimicrobiens. Elle doit accompagner la végétalisation de l'assiette et elle doit quelque part contribuer à ce que les agricultures du reste du monde fassent la transition, arrêtent la déforestation. Ça a été vu comme une logique décroissantiste totalement inacceptable parce que il est bien vrai que si on ne change rien d'autre au système agricole européen aujourd'hui que ce que les cibles indiquent, c'est-à-dire on enlève 20% des fertilisants, 50% des pesticides, 50% des antimicrobiens chez les animaux, alors oui, la production risque de réduire, en tout cas pour les cultures principales, en tout cas les quantités et les qualités des productions vont évoluer fortement. Mais ça, si on change rien d'autre, c'est effectivement un problème. Donc ça, ça a été vu, ça a été un motif quelque part de colère très fort, d'opposition extrêmement forte, voilà, même déjà avant que la stratégie sorte. Donc, ensuite, la stratégie, elle avait 27 projets de texte ou de révision de texte. Sur ces 27 projets de texte ou de révision de texte, il y en a 8 communications qui sont sorties, donc une communication, ça n'engage à quasiment rien. Il y a eu une révision d'un texte sur d'une réglementation sur les produits phytopharmaceutiques qu'on appelle les préoccupations... Les préparations naturelles peu préoccupantes, donc pour permettre aux agriculteurs d'utiliser du purin d'ortie, du purin de consoude, sans être inquiétés par la répression des fraudes. Bon, soit, tout le reste n'a pas vu le jour. La révision de la directive sur les pesticides a été rejetée par le Parlement. La loi sur la restauration de la nature a été extrêmement affaiblie et n'est pas encore mise en œuvre. La directive sur les installations classées, donc qui s'applique aux élevages d'une certaine taille, les bovins ont été exclus de l'application de la directive.
Ils ne sont pas considérés comme des
installations industrielles. Les volailles de chair n'ont pas vu leur seuil significativement modifié. Les volailles pondeuses, oui, et probablement ça va poser des questions, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. On attend un vote au Parlement en mars, donc qui est encore relativement incertain. Donc, grosso modo, sur les textes structurants, le paquet bien-être animal a été reporté sine die, etc. Je pourrais continuer la liste comme ça jusqu'à 27, et on n'aurait toujours pas la moindre indice d'éléments structurants pour le monde agricole. Ce qui a été dénoncé sur les jachères, par exemple, c'est la réforme de la PAC. Ce n'est pas le pacte vert. La réforme de la PAC, les États, le Parlement, ont souhaité explicitement qu'elle ne soit pas affectée par le pacte vert.
Quand les agriculteurs aujourd'hui disent qu'ils ne veulent plus laisser en jachère une partie de leurs terres, ils ne désignent pas, ce faisant, le pacte vert, mais la réforme de la PAC qui est.
Et ils croient désigner le pacte vert, mais en réalité ça n'a rien à voir.
De la PAC. Alors, en effet, beaucoup de ces mesures d'ambition ont été mises de côté pour l'instant, si ce n'est abandonnées, au moins mises de côté, notamment cette proposition de règlement sur l'usage des pesticides qui prévoyait une baisse de 50% de l'usage des produits phytosanitaires d'ici 2030 par rapport à la moyenne des années 2015, 2016 et 2017. Le Parlement européen a voté contre, c'était en novembre.
Je ne vous cacherai pas que j'aurais eu beaucoup de mal à imaginer que l'ensemble du projet soit à ce point massacré. Franchement, pour moi, en tant que rapporteuse de cette loi, c'est une immense déception. Parce qu'il y avait quand même une raison pour laquelle on avait voulu un texte relatif à la restriction de l'usage des pesticides. Vous savez que 7000 scientifiques avaient pris position pour une réduction des pesticides. Chacune d'entre vous a dans le corps 300 substances nocives. Il faut le dire très clairement, c'est la faute des lobbies. C'est l'industrie des pesticides elle-même qui a rédigé les amendements du PPE sur ce texte. C'est pas très étonnant de voir le résultat.
L'abandon donc de ce texte clé du pacte vert sur l'usage des pesticides en novembre, Thierry Pouche, donc 2 mois avant que la colère des agriculteurs n'éclate en Europe. Pourquoi continuer dans les cortèges, on l'a beaucoup entendu, cette question des pesticides, continuer à dire que les agriculteurs ne pourront pas travailler sans un minimum de pesticides pour garantir une certaine production, alors même que le Parlement européen avait rejeté ce texte pour l'instant. C'est bien, ça confirme bien ce que dit Pierre-Marie Aubert pour l'instant, que c'est plus l'esprit du texte qui pose problème pour l'instant que son application.
Ah oui, ce qu'a dit Pierre-Marie est important parce que, à la limite, dès la publication du texte sur le pacte vert, qui contient plein d'autres dimensions, hein, l'agriculture est un aspect avec de la ferme à la fourchette.
C'est la stratégie, la déclinaison pour l'agriculture voilà. Du pacte vert,
C'était déjà presque mal engagé d'une certaine façon, puisqu'il y avait eu assez rapidement, de la part d'un certain nombre d'organismes, d'institutions, à commencer par le ministère américain de l'agriculture, qui s'est pas gêné justement pour montrer à quel point l'Union européenne faisait fausse route, au point que même le ministère a presque culpabilisé l'Union européenne, puisque dans l'étude qu'ils avaient réalisée au ministère américain, ils montraient que si l'Union européenne appliquait toute seule cette stratégie, on aurait à l'horizon 2030 un décrochage de la production, des exportations, un surcroît d'importation pour satisfaire les besoins intérieurs, et puis une diminution du revenu.
Bon. Mais de quoi se mêlent-ils en l'occurrence les États-Unis ? C'est-à-dire en quoi ça les concerne eux ? Pourquoi ils ont fait cette étude-là ?
Parce qu'il y avait ce scénario-là sur l'application uniquement européenne et ensuite un scénario intermédiaire et un scénario mondial. Donc dans le scénario mondial, ils étaient concernés. Et alors ils sont même allés jusqu'à dire la diminution de la production qui serait occasionnée par ce pacte vert pourrait même augmenter le nombre d'individus dans le monde qui seraient touchés par la faim. Ils avaient chiffré ça à 170 millions. À peu près. Donc voilà, c'était une façon de dire à l'Union européenne, continuez comme ça. Et quand on regardait les scénarios, on voyait bien que ce qui était perdu par l'Union européenne pouvait être récupéré par un certain nombre d'autres puissances, comme la Russie, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Brésil évidemment, ou l'Inde. Alors, donc ça, c'était à la limite très mal engagé, parce que après ça, il y a eu d'autres études qui ont été menées par des universités allemandes, par l'université de Wageningen, quand même assez prestigieuse, et par la Commission européenne même, et qui a pas tout à fait rapidement publié son étude.
Mais pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas justement concluante pour.
Justement, ce qui m'avait frappé dans ces études, aux hypothèses près et aux modèles utilisés près, c'est qu'il y avait une certaine forme de convergence vers cette idée que on allait reculer en production, etc. J'ajouterai un tout petit point, c'est que depuis 2019 aussi, la donne internationale a changé.
La guerre
en Ukraine est intervenue et que de ce point de vue-là, quand on met au jour les dépendances européennes en matière d'engrais, en matière d'énergie, c'est un peu ce qui se passe en Allemagne. On a mis la focale sur la fiscalité du diesel en Allemagne, mais en fait les agriculteurs allemands ont pris conscience aussi en arrière-plan que ce pays est quand même très dépendant de la Russie pour son énergie, pour ses engrais, et qu'il faudrait pas que l'Allemagne tombe dans une forme de dépendance agricole et alimentaire Je rappelle que l'Allemagne est le premier déficit commercial agroalimentaire de l'Union européenne.
Alors, deux questions à vous poser, Pierre-Marie Aubert. D'abord, comment ces études ont été menées? On fait toujours dire ce qu'on veut aux chiffres. En l'occurrence, c'est difficile de comprendre comment une étude peut déjà projeter ce qu'une réforme verte de l'agriculture européenne peut avoir pour conséquence, comme conséquence pour la sécurité alimentaire du monde entier. Mais ça s'explique et vous pointez dans un article des défaillances de méthode. Donc, expliquez-nous. Et ensuite, il s'agira de considérer cette bataille de points de vue entre une agriculture productiviste qui servira à nourrir la planète et une agriculture bio ou à tout le moins raisonnée qui, elle, ne suffirait pas manifestement à nourrir tout le monde et surtout quand une guerre éclate sur le continent européen.
Oui, alors, peut-être je vais commencer par votre deuxième question, je suis désolé, mais comme ça pour poser un peu les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un débat très fort entre d'un côté une agriculture, on va dire, productive, efficiente, on va dire comme ça, qui a pour elle une capacité à valoriser au mieux, en tout cas en apparence, l'ensemble des consommations qui sont utilisées pour produire, c'est-à-dire les intrants, les fertilisants, les pesticides, etc. On va être très efficace, l'eau même, en utilisant l'énergie.
Et pas seulement, je me rappelle, la ferme des 1000 vaches en Picardie dit par exemple qu'une vache pour produire 40 litres, une vache qui produit 40 litres de lait par jour, consomme en effet plus, il faut pour la nourrir utiliser plus de produits et autres pour qu'elle travaille bien, que pour une vache qui produit 20 litres par jour. En revanche, pour deux vaches qui produisent 2 litres, là, on consommera plus que pour une vache qui produit 40 litres.
L'idée, c'est de dire les systèmes super efficients, super productifs, ils peuvent être, on va dire, à l'unité de produit, c'est-à-dire par kilo de lait, par kilo de viande, par kilo de blé, ils peuvent en apparence être plus efficaces dans leur usage des fertilisants, des pesticides, etc. Ils peuvent émettre moins de CO2 par unité de produit. Et effectivement, le pacte vert, il a été immédiatement vu comme l'autre pôle du débat, c'est-à-dire une agriculture plus extensive qui, par unité de surface, tout à fait différent, va être moins impactante, mais qui va produire souvent moins par unité de surface. Quand on est dans les contextes OCDE, Europe de l'Ouest, où on est déjà sur des niveaux de productivité qui sont très élevés. Ce que l'étude américaine a fait, c'est qu'elle a fait comme si les obligations que souhaitait ou proposait de s'imposer l'Europe, on allait les appliquer au reste du monde, alors qu'il n'y a aucun sens à poser les mêmes questions de réduction des phytos, de l'azote de synthèse, des fertilisants, etc., dans les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, où là, plus tôt, on aurait besoin d'un petit peu plus de fertilisants ou d'un petit peu plus de phyto. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a bien un débat très fort et le pôle, on va dire, agriculture extensive avec la nature, avec la biodiversité, qui va chercher à maintenir sur le long terme les capacités productives de l'agro-système, ce pôle-là, représenté par la Farm to Fork, il suppose un changement de système dans son ensemble. Ça veut dire, c'est pas juste l'agriculteur qui a moins 20% de fertilisants ou moins 50% de phyto, c'est aussi un amont agricole, c'est-à-dire des semences qu'on lui fournit qui sont pas les mêmes, ça veut dire un aval qui est pas le même, c'est-à-dire des filières structurées différemment, et une consommation qui n'est pas la même. Et je terminerai, avant de laisser la parole à Thierry, sur le fait que ce que l'étude du SDA dont parlait Thierry Pou juste avant, comme l'étude du Centre commun de recherche de l'Union européenne, comme l'étude de Vareningen et d'autres, ont considéré un système actuel. Et ils ont dit, si le système actuel, je lui mets tel choc, tel choc, tel choc, je lui mets moins ceci, moins cela, moins cela, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ce qui se passe, et je ne bouge pas la consommation. Et non, ce qui se passe, c'est une baisse de la production, une augmentation de la dépendance. Mais, or, la Farm to Fork, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle ne voulait pas faire un choc sur le système actuel, elle voulait passer du système actuel à un autre système plus vertueux. Et donc, en fait, les modèles qu'on a utilisés pour modéliser ça, ils n'étaient pas capables de faire le job. Pardon, juste, je termine vraiment là. Quand nous, on a publié en 2021 une étude sur une Europe agroécologique, quel impact pour le reste du monde, la sécurité alimentaire et l'usage des terres dans le reste du monde, on montre qu'en fait, si on fait aller de pair la transformation des modes de production et des modes de consommation, eh bien, l'Union européenne permet de redevenir exportatrice nette de calories, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que l'Union européenne, elle importe des calories en net, parce qu'elle nourrit un cheptel, 60% de ses céréales, 75% de ses oléagineux et protéagineux, ils partent dans l'alimentation animale, ce qui fait que l'Europe aujourd'hui dépend du reste du monde pour nourrir son cheptel, pour manger des protéines animales en trop grande quantité.
Thierry Pouche, cette stratégie de la ferme à l'assiette, est-ce qu'elle relève de cette... je crois qu'on dit le land sharing, c'est ça. Je pense pas les agriculteurs, nous-mêmes n'utilisons pas cette expression tous les jours, mais c'est cette façon de miser, de dire que la biodiversité n'est pas hors des espaces agricoles, qu'elle est aussi dans les espaces agricoles, qu'il faut la préserver en ayant une pratique durable et douce de l'agriculture. C'est ça, c'est cet esprit-là qui est aujourd'hui remis en cause par les agriculteurs quand vous les rencontrez. Dans le cadre de votre travail pour les chambres d'agriculture, cette discussion-là s'engage toujours. Il y a une incompréhension, peut-être de nous aussi. Enfin, je ne parle pas de l'incompréhension des agriculteurs qui connaissent mieux leur travail que moi, bien plus. Mais en tout cas, on ne parle pas le même langage entre les fonctionnaires européens qui ont monté cette politique et les agriculteurs.
Le langage européen, on ne peut pas le démarquer d'une certaine conception de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'économie de la coévolution. C'est-à-dire que l'agriculture est dans un environnement, dans une écosphère, qui nécessite de se projeter dans l'avenir et donc de respecter un certain nombre de conditions naturelles, de ne pas abîmer la nature, enfin tout ce qui relève de cette idée que les générations futures ne peuvent pas être endommagées par une poursuite du modèle européen qui a été mis en place à partir des années 60. Donc ça nécessite, c'est un peu ce que disait Pierre-Marie Aubert, à la fois, c'est une certaine conception du monde qui a été développée par l'Union européenne, mais ça renvoie donc à un changement de mode de production, à un changement de mode de consommation, mais ça, c'est, de mon point de vue, ça sera peut-être un point de divergence, mais ça va être compliqué, hein, de changer les modes de consommation.
Pourquoi?
Parce que il y a des habitudes, il y a des cultures. Vous avez des régions en France qui sont très attachées à la consommation de viande, par exemple. Après, on peut se poser la question, est-ce que l'apport en protéines végétales pour la nourriture des animaux, ça, c'est un modèle qui peut probablement être changé, mais il y a eu des freins qui ont été mis par l'Union européenne à une certaine époque pour ne pas aider, justement, la culture de soja dans l'Union européenne ou d'autres formes de plantes pour la protéine végétale. Il y a eu tout un accord qui a été signé au début des années 60 entre l'Union européenne et les États-Unis en contrepartie de la PAC, hein, qui a été tolérée par les États-Unis. Et les États-Unis avaient demandé à ce que la protéine végétale sous forme de soja pouvait rentrer sur le marché européen sans droit de douane. Ben, peut-être qu'il faut revoir cet accord, mais il y a quand même un problème, si je peux me permettre. Au moment de la guerre entre la commerciale entre la Chine et les États-Unis sur l'acier et l'aluminium, la Chine a adopté des mesures de rétorsion sur les produits agricoles américains, dont le soja. Les exportateurs américains de soja ont été pénalisés et on a bien vu que les exportations diminuaient et que le revenu en était affecté. Ben, lors d'une visite officielle à Washington, Jean-Claude Juncker s'était engagé à importer davantage de soja américain pour aider justement les États-Unis à exporter puisqu'ils étaient un peu coincés sur la Chine. Donc là, il y a des incohérences qu'il va falloir peut-être un jour lever. Et pour les agriculteurs, c'est sûr que il y a un problème de langage parce que eux, quand ils entendent ça de la part de l'Union européenne, ils rappellent quand même que ce sont les premiers à être au contact de la nature. Ils ont un rapport à l'animal qui est quand même très étroit, très intime. Donc ils mettent en avant, ils font valoir leur connaissance de la biodiversité, etc. Donc là, on est vraiment sur une sorte de période intermédiaire. Je crois que la PAC 2023-2027, c'est une PAC qui se situe entre deux mondes, finalement. Un monde ancien, d'une certaine façon, et un monde nouveau. Alors, on va pas refaire le coup, le monde ancien qui a du mal à partir et le monde nouveau qui a du mal à émerger. Mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais j'insiste vraiment, je crois que la guerre en Ukraine a bouleversé les choses.
La guerre en Ukraine, la crise du Covid, vous parliez d'ancien monde et nouveau monde, c'est lors de la crise du Covid qu'on a beaucoup utilisé cette formule-là. Et on a reparlé de sécurité alimentaire, une souveraineté alimentaire aussi, un rejet du principe d'ouverture commerciale. Tout ça a été réactivé par la crise du Covid et par la guerre en Ukraine. Est-ce que cet axiome de la sécurité alimentaire, Pierre-Marie Aubert, je dis axiome, un axiome c'est une proposition admise comme évidente, donc il n'est pas nécessaire de démontrer. Est-ce que c'est devenu un moyen déguisé de préserver une logique productiviste selon vous? Là je pense qu'il y aura du débat entre vous deux.
Oui, c'est sûr qu'au moment où la crise ukrainienne émerge dans le débat, en 2022, hein, le Thierry Pouche l'a dit, la Farm to Fork a déjà pas mal de plomb dans l'aile. Il y a eu beaucoup de contestations, il y a tous ces rapports qui sont sortis, il y a peu de choses qui ont avancé en réalité. Et tout à coup, il y a un choc très fort sur les marchés mondiaux, sur toute la partie grains et oléoprotéagineux, donc les céréales et le tournesol et le colza. Et tout à coup, un certain nombre de pays, notamment les pays les plus dépendants hein, pour leur alimentation animale, que sont les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, se retrouvent privés de grains et d'oléopro, la France aussi, hein, pour partie, pour les oléos, pour nourrir leur bétail. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont demander des aides d'urgence à Bruxelles pour pouvoir congeler les carcasses de cochons, parce qu'ils vont devoir les abattre plus vite que prévu, parce qu'ils n'ont plus rien à leur faire à manger, et deux, de lever les réglementations sur les limites maximales résiduelles de pesticides autorisés sur les importations pour pouvoir changer leur route d'approvisionnement en alimentation pour les animaux et prendre du maïs d'Amérique latine. Donc, le vrai problème de sécurité alimentaire, si j'ose dire, qui s'est posé pour les agriculteurs européens, ça a été on n'a plus assez pour nourrir notre bétail. Dans tous les pays dans lesquels la seule céréalière, c'est-à-dire la quantité de céréales produite, est tout à fait inférieure à la demande du cheptel présent sur le territoire. Après, il y a eu un vrai enjeu de choc sur les prix au niveau mondial, hein, puisque, on le sait, hein, les prix ont quasiment doublé, voire même un peu plus pendant quelques semaines sur les marchés mondiaux. Et donc, tous les pays très dépendants aux importations, ils ont eu un problème d'accessibilité prix. Clairement, énorme, qu'on ne peut pas sous-estimer. L'enjeu, là, il était moins de savoir si l'Europe il allait pouvoir produire sur 2% de jachère en plus que de savoir comment on allait aider ces pays, en termes budgétaires, à accéder à de la céréale qui était devenue, un, trop chère, et deux, pour lesquelles les routes logistiques, parfois, qui venaient de la mer Noire, étaient coupées. Il fallait trouver d'autres routes logistiques.
Et vous disiez bien céréales pour nourrir les cheptels, pour nourrir les...
Pour les Européens, c'était pour nourrir... Pour les Européens, ouais. On importait du maïs et du tournesol pour nourrir les bétails. Pour un grand nombre de pays d'Afrique subsaharienne ou d'Asie du Sud-Est, on importait du blé pour nourrir les humains. Donc les enjeux étaient tout à fait différents.
Est-ce que les terrains agricoles mis en jachère sur injonction de l'Union européenne sont aujourd'hui tous exploités, Thierry Pouche, depuis le début de la guerre en Ukraine, pour assurer la sécurité alimentaire ?
Si on remettait en culture ces zones mises en jachère, on n'aurait pas un surcroît de production énorme.
Pourquoi elles ne sont pas assez nombreuses ou
parce
elles
que
sont pas fertiles ?
Les agriculteurs, lorsqu'on leur demande de mettre en jachère, utilisent souvent les terres moins productives sur des zones en pente ou des zones humides. Donc ils sont assez quand même intelligents pour dire on met en jachère, mais pas les terres les plus fertiles. Donc ça changerait pas énormément de choses. Après, on trouvera certainement dans des départements comme celui de la Somme, par exemple, avec les grandes cultures, il y aurait probablement un surcroît plus élevé qu'ailleurs, mais ça changera pas fondamentalement la donne. Mais ce que disait Pierre-Marie est important, parce que cette guerre en Ukraine, puisqu'il parlait du tournesol, par exemple, oui, à 80%, la Russie et l'Ukraine font le tournesol et l'huile de tournesol. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'épidémie et la guerre en Ukraine ont quand même mis au jour cette dépendance de l'Union européenne, que ce soit en énergie, que ce soit en protéines végétales. On a évidemment parlé des problèmes médicaux, ça c'est, il n'y a pas de doute. Et là, on s'aperçoit que... avec le conflit en Ukraine, eh bien, il y a un échiquier agricole international qui est en train d'être complètement modifié et que certains agriculteurs se disent, bah oui, mais ça nous pose un problème parce que, comme on l'a tous entendu, cette question des œufs, du poulet ukrainien, du sucre ukrainien. Enfin, avant la guerre, l'Union européenne n'importait que 20 000 tonnes de sucre en provenance d'Ukraine. L'année dernière, on était à plus de 400 000. Donc, pour les agriculteurs, ça peut représenter une source d'incompréhension et de colère par voie de conséquence, parce que on essaye de limiter la production en Europe et en particulier en France. Il y a eu quand même tout un tas de décisions il y a 10 ou 15 ans autour du sucre, de betterave, qui ont, dans les courbes on voit bien, qui ont montré le plafonnement, voire la diminution de la production de sucre. Donc tout ça participe de ces incompréhensions entre une Union européenne qui quand même a un discours assez universalisant autour de la question du climat et de la transition. Et de l'autre côté, aujourd'hui, on a un front anti-occidental qui dit « ben oui, mais nous, on va continuer à produire ». Et donc, c'est pas un souci pour nous que d'aller de l'avant sur la production.
Ah, vous le disiez, réutiliser les terres mises en jachère jusque-là ne changerait pas grand-chose sur les volumes de production. La Commission européenne réfléchit à une dérogation d'un autre type. C'est pas la mise en jachère, c'est qu'au lieu d'imposer 4% des terres en jachère pour chaque exploitation, l'exploitation, elle imposerait 7% de terres où l'usage de pesticides serait interdit, où les cultures ne seraient ni du blé ni du maïs, mais des légumineuses qui ne fixent pas l'azote dans le sol. Or, Pierre-Marie Aubert, le secteur bio est en crise aujourd'hui. En France, simplement, la vente de produits bio a baissé en volume de 9% entre juin 2022 et juin 2023. C'est le seul exemple français. Alors, pourquoi continuer à miser sur le fait que la production bio trouvera nécessairement à s'écouler? Et par ailleurs, les exploitations bio sont visiblement moins nombreuses. Il paraît que beaucoup ferment chaque année en ce moment. Je ne sais pas quelles informations vous avez nouvelles à ce sujet.
Bon, je pense qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est derrière. Ce qui est derrière, c'est l'idée qu'un paysage agricole dans lequel il n'y a pas assez de, ou plus assez de biodiversité, c'est un paysage qui, à long terme, va voir sa capacité productive s'éroder. On parle de biodiversité des sols, on parle de biodiversité dans les paysages, dans la structure des paysages. Hein, et aujourd'hui, on sait qu'il faut 20%, par exemple, d'éléments qu'on appelle semi-naturels, donc on va dire non productifs directement dans un paysage, pour qu'ils soient fonctionnels du point de vue de la biodiversité. C'est ça qu'on cherche à faire. Et pourquoi? Parce que cette biodiversité dans les territoires agricoles, c'est en gros un facteur de production nécessaire, notamment pour faire face aux chocs climatiques dans lesquels on va arriver. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans les zones à très haut rendement comme l'Europe, on l'a dit, ça va modifier la structure de la production en termes d'équilibre entre les cultures et en termes de volume de chacune des cultures. Ça, ce qu'on voit, nous, dans les travaux qu'on mène avec différents collègues au niveau européen, c'est qu'en fait, quels que soient les systèmes agricoles qu'on regarde, les évolutions de production vers lesquelles on doit aller, même si on mise sur des choses très productives, elles doivent s'accompagner d'une baisse de la consommation de produits animaux pour que ça tienne. On ne dit pas tout le monde végétarien, on dit grosso modo 30% de réduction sur les produits laitiers, 50% sur les produits carnés. Quand on sait qu'aujourd'hui, on en mange 170 grammes par jour équivalent carcasse, ça laisse de la marge. On peut se manger deux bons steaks par semaine et un poulet chaque semaine. Il n'y a aucun souci. Donc, on en est là. Troisième truc, je pense que, dernier truc après de laisser la parole à Thierry Pouche, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, et c'est ce qu'on essaye de dire, nous, depuis le début de la crise, c'est que si c'est si difficile, c'est qu'on n'a pas le deal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien raconter des belles histoires agronomiquement durables, soutenables, physiquement qui tournent. C'est ce que nous, on fait à l'IDRI pour partie. Mais l'autre chose que nous, on fait à l'IDRI, c'est qu'on passe énormément de temps avec le monde agricole pour essayer de comprendre comment on va rendre ça viable et intéressant économiquement. Et aujourd'hui, on n'a pas ce deal-là. Et si on arrivait à se le dire pour construire ensemble ce deal, peut-être qu'on avancerait un peu plus.
C'est vrai que c'est une transition qu'on a réussi à amorcer dans d'autres secteurs, Thierry Pouche, que ce soit l'automobile, que ce soit l'énergie, même si il y a des débats sur la part du nucléaire pour le mix énergétique, sur la réduction des trajets en ce qui concerne l'électrification de la flotte automobile, mais sur l'agriculture, on n'y arrive pas.
Oui, et enfin, sur l'industrie et le secteur automobile, il y a aussi la question de notre dépendance à certains composants qui sont incorporés dans les batteries électriques, ce qui explique d'ailleurs que l'Union européenne, en signant un accord avec le Chili, par exemple, cherche à compenser ce qui est cédé sur l'agriculture en ayant accès au nickel, au cuivre, etc. Bon. Donc, c'est pas si linéaire que ça. Mais pour l'agriculture, c'est sûr qu'on est dans une phase de transition. Si je peux employer, puisque je suis économiste, cette expression qu'on doit tous à Schumpeter, c'est on est dans une phase de destruction créatrice. C'est-à-dire qu'on est obligé, d'après ce que disait Schumpeter, de laisser des pans entiers de l'économie qui ne sont plus viables ou plus rentables et de passer à autre chose. La difficulté, c'est à quel rythme? Est-ce que ça va concerner tout le monde? Est-ce qu'il ne va pas y avoir dans ce processus de destruction créatrice des phénomènes d'injustice environnementale et d'injustice sociale? Enfin, on sait quand même que, par exemple, le Bureau international du travail a montré qu'il fallait qu'il y ait des transitions justes, c'est-à-dire sans répercussions négatives pour l'emploi, pour les revenus, et essayer de lutter contre ces inégalités sociales. Donc, c'est pas si simple. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces processus de transition ou de destruction créatrice, on a souvent un processus de dépendance au sentier. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu faire, qui a fonctionné, qui a été économiquement viable, on a du mal à s'en démarquer finalement, parce qu'on reste prisonnier d'un modèle qui a montré son efficacité. Tout à l'heure, il a été question de la productivité. À la sortie de la guerre, un agriculteur pouvait nourrir 5 personnes. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 quand même. Donc voilà, c'est des choses qui pèsent dans la balance et dans les discussions. C'est pour ça qu'il est toujours très difficile de basculer d'un modèle à un autre.
30 Grad, ich kühl mein Kopf am Fensterglas, such den Zeitlupenknopf. Wir leben immer schneller, feiern zu hart. Wir treffen die Freunde und vergessen unser Tag. Wollen kein Stress, kein Druck, nehmen Zug, noch einen Schluck vom Gin Tonic. Guck in diesen Himmel wie aus Hollywood. Rot knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt. Und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab.
Jung und ignorant stehen auf dem Dach, teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus Plänen und Träumen. Jeden Tag neu, bisschen Geld gegen Probleme. Wir nehmen, was wir wollen, wollen mehr sein als nur ein Moment, yeah. Komm mir nicht mit großen Namen, die du kennst. Wir trinken auf Verlierer, lassen Pappbecher vergolden. Feiern hart, fallen weich auf die lila Wolken.
Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind.
Lila Wolken, les nuages violets du chanteur allemand Marteria. Cherchez le bouton de ralenti, on vit de plus en plus vite, dit-il. Alors on n'a pas choisi les chansons allemandes d'agriculteurs qui fleurissent sur les réseaux sociaux et sur internet. Des clips sponsorisés par Bayer, l'industriel Bayer. Ça, c'était une sorte de concours qu'il avait lancé, Clip My Farm. La nature est belle, et ce que disent les médias n'est pas toujours vrai, entend-on à l'envi dans ces chansons. Le lobby industriel des Bayer Monsanto, BASF, Bayer, Corteva, Limagrain, Syngenta, les géants du secteur ne sont jamais bien loin quand on parle nouvelles techniques agricoles et en l'occurrence pour notre focus, nouveaux OGM.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Je cultive plusieurs cultures, betteraves, céréales, colza, maïs, lin. Nous, c'est le principal intérêt qu'on peut trouver au NBT dans notre métier, de limiter d'éventuels passages de protection phytosanitaire. À l'heure où on nous demande de faire toujours plus vert, évidemment que ces technologies, elles nous semblent intéressantes.
Les NGT, comme dit ce producteur de betteraves dans le Vexin, c'est le sigle de nouvelles techniques génomiques. Elles permettent de modifier le matériel génétique des plantes sans forcément introduire un gène d'une espèce différente, comme c'est le cas pour les OGM de première génération. Et mercredi 24 janvier, les membres de la commission environnement du Parlement européen ont voté en faveur d'un assouplissement des règles pour ces nouveaux OGM. Bonjour Jacques Le Cacheux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie de l'université de Pau. Alors d'abord, en quoi ces nouvelles techniques génomiques diffèrent des OGM, puisque la Commission européenne dit que ça n'a rien à voir?
Oui, alors c'est ce que dit la Commission européenne. Elle diffère parce que, comme vous l'avez dit, au lieu d'introduire un gène d'une espèce différente dans le génome de la plante, par exemple, eh bien, on se contente de modifier le génome avec ces nouveaux outils qu'on appelle les ciseaux moléculaires. Donc on induit artificiellement, si vous voulez, des mutations dans le génome des plantes, en l'occurrence.
Alors ça faisait longtemps qu'on ne parlait plus d'OGM, en attendant donc ces nouvelles techniques étaient élaborées sans qu'on le sache vraiment, en tout cas les consommateurs, les citoyens, nous on n'était pas très au courant, vous l'êtes beaucoup plus que nous. Mais qui a jusqu'à présent mené cette recherche sur ces NGT? Est-ce que des scientifiques indépendants des industriels ont été sollicités?
Bah, très peu, parce qu'en fait ces techniques, on en a quand même un peu parlé dans la presse, puisqu'il y a eu un prix Nobel pour les ciseaux moléculaires il n'y a pas si longtemps que ça, mais l'application, disons, à l'induction de mutations dans les plantes est relativement passée inaperçue. Et le problème, si vous voulez, c'est que ces techniques, elles sont développées par des laboratoires, des grandes entreprises que vous avez nommées notamment, Et évidemment, les essais, etc., tout ça est protégé par le secret industriel. Donc, il y a assez peu, pour l'instant, d'études scientifiques indépendantes. Il y en a quelques-unes, quand même, hein, puisque l'ANSES, l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire, a publié un avis sur cette question le 29 novembre dernier, en s'appuyant sur la littérature existante. Et il y en a un peu, quand même, mais pas beaucoup.
Donc, ce sont des techniques qui sont protégées par des brevets, donc qui interdisent aux scientifiques de travailler sur ces nouvelles techniques génomiques tant qu'elles ne seront pas sur le marché. Les OGM de première génération, Jacques Lecacheux, ils étaient aussi présentés comme une manière de se passer à terme de pesticides, d'augmenter les rendements. Dans les pays qui cultivent des plantes transgéniques, avec le recul, est-ce que c'est ce qui s'est passé ?
Bah non, pas du tout. Là, on a suffisamment de recul pour pouvoir dire avec certitude que non seulement ça n'a pas diminué l'utilisation des pesticides, mais ça a plutôt augmenté parce que on a développé surtout des OGM qui étaient résistants à ces pesticides. Par exemple, le soja qu'on appelle Roundup Ready, qui était résistant au fameux Roundup, c'est-à-dire au glyphosate. En fait, pour le cultiver, eh bien, ce qu'on fait, c'est que on le sème en répandant des doses massives de glyphosate sur le terrain et donc on n'en utilise plus et pas moins.
J'imagine que personne n'a résolu aujourd'hui la question de la dispersion de ces nouveaux OGM qui n'attendent qu'à être disséminés par les vents, par la laine des moutons, par l'ourlet d'un pantalon. Comment est-ce que peuvent s'en protéger non seulement les entreprises agricoles installées en bio, mais aussi toutes ces petites parcelles que l'Union européenne voudrait obliger chaque agriculteur à protéger des pesticides, à exploiter en agriculture extensive ces nouveaux OGM? Est-ce qu'ils vont s'arrêter à la frontière, comme on dit?
Ben non, il n'y a aucune chance. Le problème, si vous voulez, c'est que ce que propose la Commission, c'est de déréglementer complètement, c'est-à-dire de ne plus, non seulement de les autoriser, mais même de ne plus obliger à la traçabilité, etc. Et donc, on n'a plus d'informations sur ces nouveaux OGM. Et ensuite, évidemment, la dissémination, elle est inévitable. Les pollinisateurs, par exemple, on voit bien que les pollinisateurs peuvent facilement passer d'une plante OGM à une plante non-OGM. Et puis, dans la mesure où il n'y a plus aucune traçabilité, ça veut dire qu'on va les retrouver dans tous les produits alimentaires, etc., etc.
Alors, quelles autres fractures viennent creuser ces nouvelles techniques génomiques dans le monde agricole? Comment les syndicats agricoles les considèrent aujourd'hui?
Vous l'avez tout à l'heure, votre reportage l'a illustré, c'est-à-dire que évidemment une grande partie des agriculteurs engagés dans les grandes cultures sont plutôt favorables à ces OGM parce que évidemment on leur promet à nouveau, comme à chaque fois qu'il y a une innovation technologique de ce type-là, on leur promet un usage moindre de certains pesticides et puis peut-être moins de travaux, de récoltes, etc., et des meilleurs rendements, une meilleure résistance à la sécheresse ou au gel, etc. Mais en réalité, évidemment, on n'en sait pas grand-chose, et tout ce qu'on sait, c'est que ça va accroître encore leur dépendance aux fournisseurs, ça c'est sûr.
Et au niveau des États, pour conclure, Jacques Lecacheux, c'était l'année dernière, la ministre autrichienne de l'Environnement avait demandé au nom de 9 États membres que l'étude d'impact sur ces nouvelles techniques génomiques soit refaite. Comment aujourd'hui se divisent les États de l'Union européenne sur ces questions des nouveaux OGM ?
Écoutez, demain, le Parlement européen, en session plénière, doit se prononcer sur le texte. On va déjà avoir une petite idée de la chose. C'est demain mardi, je pense, qu'ils votent sur ce texte. Et puis, ensuite, il faudra que ça passe au niveau du Conseil, c'est-à-dire des États membres. Alors, comme vous l'avez dit, il y a une dizaine d'États actuellement qui sont, en tout cas, réticents. Et si vous lisez l'avis de l'ANSES, l'avis est extrêmement réticent aussi, pour ne pas dire négatif. Alors maintenant, est-ce que le gouvernement français va suivre cet avis? Ça semble peu probable dans le contexte actuel, mais en tout cas, il met en garde contre un certain nombre d'imprécisions, etc., qui risquent d'ouvrir grand les vannes, en gros.
Merci beaucoup, Jacques Lecacheux, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie de l'Université de Pau. C'est nouvelles techniques génomiques, comment sont-elles intégrées au pacte vert, en tout cas à la stratégie de la ferme à l'assiette, qui est la déclinaison pour l'agriculture du pacte vert européen, monsieur?
Précisément, le texte qui sera voté en plénière demain au Parlement européen est un des textes qui était prévu par la Farm to Fork, c'est-à-dire une nouvelle disposition réglementaire. Considère-t-on les NGT comme des OGM ou pas comme des OGM? Et donc, si on accepte de ne pas les considérer comme des OGM, ce qui a été la proposition de la Commission, alors effectivement, tous les enjeux de traçabilité se posent dans des termes tout à fait différents de la première génération d'OGM et également tous les autorisations de mise sur le marché. Donc aujourd'hui, on s'achemine vers ça et ça faisait partie de la Farm to Fork. Ça pose, vous l'avez dit, hein, toutes les questions que ça pose.
Avec cette question-là, Thierry Pouche, qui est que aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs sont convaincus que ces nouvelles techniques leur permettront de réduire leur utilisation de pesticides, parce qu'il faut quand même reconnaître que beaucoup aujourd'hui voudraient réduire la consommation de pesticides. Ils ne sont pas pour augmenter cette production-là. Simplement, il n'y a pas encore de solution. Mais n'importe quel agriculteur qui a ouvert un jour une sulfateuse en oubliant qu'il y avait un fond de glyphosate ou de Roundup dedans s'en rappelle encore a priori. Donc, ils ne sont pas pour les garder. Mais alors, comment établir une politique cohérente qui puisse convaincre les agriculteurs dans une logique schumpeterienne, comme vous le disiez, de destruction créatrice?
Vous avez un cas assez emblématique, c'est quand même ce qui s'est passé sur la betterave. On a là un décalage assez important, un problème de temporalité entre la nécessité de réduire l'usage de ces intrants et en même temps une recherche qui ne va pas suffisamment vite pour proposer un certain nombre d'espèces, de variétés qui soient plus résistantes à telle ou telle maladie ou telle aléa climatique. Donc c'est vraiment là un véritable problème. Les agriculteurs, de toute façon, sont amenés par les décisions de la politique agricole commune à respecter un certain nombre de critères, ne serait-ce que pour être éligible au versement des aides. Hein. Donc, et puis le coût que représentent aussi les intrants. Donc on est là sur des différences de temporalité qui sont assez préoccupantes. Et on a, à travers ce qui a été dit sur le Parlement européen, une telle complexité et une telle diversité des États membres que c'est extrêmement, extrêmement complexe aujourd'hui.
Puisque chaque État membre doit définir son plan stratégique, sa contribution, la contribution de son agriculture à une ambition européenne commune. La France et la Pologne, par exemple, n'ont pas du tout les mêmes objectifs de réduction des pesticides. La France vise 50% de pesticides en moins et la Pologne 7%.
C'est ça, et puis même sur l'agriculture biologique, hein, y a des différences.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous pour en parler. Thierry Pouche, économiste, chef du service études et prospectives de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à Paris et chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de Reims-Champagne-Ardennes. Votre article que vous avez écrit avec Marine Raffray, Éclipse puis résurgence de la souveraineté alimentaire, une approche en termes d'économie politique, est à retrouver sur le site de l'OFCE. Et vous avez écrit une géopolitique du sucre, parue aux éditions de l'IRIS. Merci beaucoup Pierre-Marie Aubert, ingénieur agronome, directeur du programme agriculture à l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI. Quant à vous, vous avez un article à paraître très bientôt à la fin du mois dans la revue L'économie politique, de la ferme à la table, raison de l'échec et comment rebondir. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Une nouvelle bataille politique aux États-Unis, Catherine, alors que les sénateurs américains sont parvenus hier à un accord sur l'immigration et sur l'Ukraine.
Le camp démocrate a consenti à de sérieux tours de vis migratoires, mais le camp trumpiste est prêt à tout faire capoter pour des questions électoralistes, estiment le Washington Post et la BBC. Pourtant, c'est bien un accord bipartisan que démocrates et républicains ont conclu hier au Sénat, avec un financement total de 118 milliards de dollars, ce qui comprend une aide de 60 milliards pour Kiev, 14 milliards aussi pour Israël, 10 milliards pour l'aide humanitaire à Gaza, détaille le New York Times, le Wall Street Journal et le Times of Israel. Une enveloppe de 20 milliards de dollars est également consacrée à la politique migratoire américaine, assortie de restrictions plus sévères dans le traitement des demandes d'asile, la possibilité de fermer la frontière avec le Mexique lorsque les passages dépassent les 5000 personnes par semaine, alors que le mois de décembre a connu des pics à 10 000 arrivées par jour. En clair, cela signifierait que les migrants arrivant illégalement aux États-Unis ne seraient plus autorisés à y demander l'asile, passé passer ce cap, il serait expulsé peu de temps après. Une rupture radicale avec la législation actuelle, analyse le Washington Post et la BBC. Mais avant même d'avoir lu les 370 pages de l'accord trouvé au Sénat, le chef des Républicains à la Chambre des représentants a estimé que le texte serait mort à son arrivée à la Chambre basse. Davantage de fermeté de la part de Washington, c'est pourtant ce que demandait hier le gouverneur du Texas, Greg Abbott, entouré d'une dizaine d'autres gouverneurs républicains défiant le pouvoir fédéral. Greg Abbott refuse de retirer, comme la Cour suprême l'a demandé, des barbelés installés sous la surface du Rio Grande, ainsi que des plaques qui ressemblent à des lames de scie circulaire, précise la Texas Public Radio. Le gouverneur texan est par ailleurs soutenu par des centaines de républicains qui ont décidé de former une armée de Dieu. Ils ont traversé les États-Unis en pick-up, camionnette et camping-car, expliquait le pays, pour converger à Eagle Pass, au Texas, à la frontière avec le Mexique, avec un mot d'ordre, take back our border, reprenons le contrôle de notre frontière.
Alors pourquoi les républicains de la Chambre des représentants rejettent l'accord qui vient d'être trouvé au Sénat ?
Mitch McConnell, le chef de file des Républicains au Sénat, a déclaré que son parti ne pourrait pas obtenir de meilleur accord, même si la Maison-Blanche était occupée par un Républicain. Pourtant, selon le site d'information Vox, Donald Trump ne veut pas que les Républicains du Congrès concluent un accord avec le démocrate Joe Biden, car cela donnerait une bonne image de l'actuel président. Donald Trump espère, lui, le chaos à la frontière avec le Mexique pour apparaître comme le Messie à 9 mois de la présidentielle américaine. Stratégie confirmée et même moquée par le présentateur Stephen Colbert du Late Show sur la chaîne CBS.
That is so crazy. Republicans are the ones who insisted on a border deal above everything else and now they're backing out.
C'est complètement fou, s'amuse Stephen Colbert. Ce sont les républicains qui ont insisté pour trouver un accord frontalier avant tout le reste. Et maintenant, ils font machine arrière. Est-ce que ce sont des législateurs ou des enfants de 5 ans à l'heure du dîner qui refusent de manger des pâtes au beurre alors qu'ils l'ont réclamé tout l'après-midi? Et Stephen Colbert, plus sérieux, d'expliquer pourquoi les républicains agissent ainsi. C'est parce que le candidat Trump veut faire campagne sur l'immigration. Mais la rhétorique de l'invasion et la rébellion du gouverneur texan Greg Abbott ne font qu'exacerber les divisions aux États-Unis et normaliser les idées violentes, écrit El País. Dans la caravane de l'armée de Dieu, on trouve par exemple des soutiens à l'insurrection du 6 janvier 2021 avec l'assaut contre le Capitole à Washington, des membres de milices d'extrême droite, des conspirationnistes de QAnon, d'où la mise en garde de certains députés comme la démocrate Veronica Escobar du Texas. Elle rappelle que ce type de rhétorique a conduit aussi au massacre d'El Paso en 2019, lorsqu'un suprémaciste blanc du Texas avait ouvert le feu dans un magasin Walmart, tuant 23 personnes en représailles à ce qu'il considérait comme une invasion hispanique.
Toute autre chose pour conclure, Catherine, les Grammy Awards, l'équivalent des Oscars en musique, marquent aux États-Unis le début d'une nouvelle ère pour les artistes féminines.
Miley Cyrus et SZA se sont illustrées, ainsi que Taylor Swift qui remporte le Grammy de l'album de l'année pour la 4e fois de sa carrière, un record et une conclusion logique selon le Guardian à l'année 2023 où les femmes ont dominé les hit-parades et brillé en concert. Mais le journal britannique s'alarme de la misogynie persistante dans l'industrie de la musique. C'est toujours un boys club comme l'a prouvé un rapport parlementaire la semaine dernière au Royaume-Uni. Les abus et le harcèlement sexuel restent monnaie courante, avec des artistes jugés sur leur apparence physique. Et quand une petite élite réussit, les femmes de l'ombre, elles, sont toujours confrontées à la misogynie. Des techniciennes de studios d'enregistrement, aux musiciennes et aux quelques cadres dans les maisons de disques, elles sont très rares. J'ai beaucoup de misogynie intériorisée, regrettait la chanteuse et compositrice Billie Eilish dans une interview à Vanity Fair. Billie Eilish qui a remporté hier le prix de la chanson de l'année grâce à son titre mélancolique « What was I made for ?» écrit pour la BO du film Barbie. La poupée y traversait une crise existentielle et découvrait la misogynie du monde réel. Now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now.
Merci beaucoup, Catherine Dutu.